RFI. Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 22h30 à Téhéran et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, Donald Trump envoie des négociateurs dès maintenant en Russie pour faire valider la proposition de cesser le feu en Ukraine. Alors que Moscou joue visiblement la montre en intensifiant son offensive dans la région de Koursk. La riposte mondiale face à la guerre commerciale de Donald Trump, alors que l'acier sera désormais taxé aux États-Unis, le Canada, la Chine et l'UE ripostent des représailles proportionnées pour les Européens qui souhaitent éviter l'escalade. L'Iran juge imprudente les menaces des États-Unis après l'envoi d'une lettre par Donald Trump appelant à des négociations sur le nucléaire et avertissant de possibles actions militaires en cas de refus. Téhéran qui menace également de riposter. Enfin, le retour des astronautes américains coincés depuis 9 mois dans la station spatiale internationale se précise. Une mission de sauvetage doit décoller cette nuit pour les ramener sur Terre, sans doute dès dimanche, nous dit la NASA, si tout se passe bien. Au lendemain de l'accord américano-ukrainien sur une proposition de trêve de 30 jours en Ukraine, Donald Trump a donc annoncé ce soir l'envoi de son émissaire Steve Witkoff en Russie, alors que Moscou, de son côté, bien dit attendre d'être officiellement informé par Washington, espérant également un appel téléphonique au plus haut niveau entre Donald Trump et Vladimir Poutine très vite, sans doute également dès cette semaine, confirment de leur côté les Américains. Moscou qui, malgré la volonté d'accélérer de Washington, entend bien visiblement jouer la montre, intensifiant son offensive sur le terrain pour reprendre Koursk, toujours aux mains des Ukrainiens. Un cessez-le-feu n'est donc pas vraiment dans l'intérêt immédiat de la Russie, comme l'explique Père Dejon, ancien colonel des troupes de marine et vice-président de l'Institut de formation Témis, dédié aux problématiques de paix et de sécurité.
Les Russes disent simplement qu'ils attendent de l'information de la part des Américains, puisqu'ils ne parlent pas avec les Ukrainiens. Tant que les Ukrainiens sont en place dans la région de Koursk, j'imagine que les Russes refuseront de discuter. Et ce qui va arriver là dans les jours qui viennent, théoriquement, si Poutine l'accepte, c'est une trêve qui va durer 30 jours, à partir de laquelle ils pourront négocier quelque chose. Maintenant, le problème des Russes, c'est que si ça se stabilise, le problème, c'est le retour à ce qu'on appelle une économie de paix. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les Russes sont en économie de guerre. 10% de leur PIB est consacré aux achats de défense. Ils ont de la croissance, même si le rouble ne se porte pas très bien. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de décélération du côté de l'économie russe qui va être extrêmement difficile, ce qui me fait dire que très concrètement, je pense que les Russes vont maintenir une forme de pression principalement sur la frontière ukrainienne et dans la région du Donbass.
Explication de Père Dejon, ancien colonel des troupes de marine au micro d'Anne Kantner. Et de son côté, le président Zelensky avoue, lui, ne faire aucune confiance à la Russie et d'y compter sur des mesures fortes de Washington si Moscou n'accepte et pas la trêve avec l'Ukraine. Ce projet de cessez-le-feu en Ukraine sera également au menu des discussions des chefs de la diplomatie des pays du G7 qui se réunissent à partir d'aujourd'hui au Canada. Au cœur des débats également, la guerre commerciale lancée par Donald Trump, alors que sont entrés en vigueur ce matin les 25% de droits de douane des États-Unis sur l'acier et l'aluminium du monde entier, y compris venant de chez ses voisins. Le Canada a décidé de répliquer en annonçant à son tour des droits de douane de représailles sur certains produits américains. Explication d'Abla Junaidi.
Le déclencheur, c'est l'ajout par les États-Unis de 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, après avoir menacé de les doubler pour le Canada sous le prétexte de garantir la sécurité nationale. Une mesure profondément dévastatrice selon les industriels canadiens. Elle s'est doublée depuis hier d'une autre annonce par Washington qui fait monter la tension. Les États-Unis vont commencer à appliquer une loi qui ne l'était pas jusqu'ici pour les Canadiens, l'obligation de s'enregistrer auprès des autorités pour un séjour d'au moins un mois pour ceux qui font le voyage pour la première fois. En rétorsion, Ottawa dégaine des taxes supplémentaires sur plus de 20 milliards de dollars de produits américains, dans le collimateur des produits en acier, en fonte, des équipements sportifs, des ordinateurs. Les mesures entrent en vigueur dès ce jeudi minuit. Le Canada continue donc de rendre coup pour coup. Avant cela, le pays avait adopté des taxes supplémentaires contre 30 milliards de produits américains à la suite des premières mesures douanières américaines annoncées pour début avril désormais.
Et ces nouveaux droits de douane américains ont également entraîné une riposte de l'Union l'Union européenne et de Pékin, premier producteur d'acier au monde. La Chine promet des représailles musclées, alors que de son côté, et afin d'éviter l'escalade, eh bien la Commission européenne a annoncé des droits de douane forts mais proportionnés dès le 1er avril prochain sur toute une série de produits américains allant des bateaux au bourbon et en passant par les motos. Des menaces de représailles militaires, cette fois de la part de l'Iran. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a jugé imprudentes les menaces des États-Unis après l'envoi par Donald Trump d'une lettre à Téhéran appelant à des négociations sur le nucléaire et avertissant de possibles actions militaires en cas de refus de l'Iran. Téhéran menace d'une riposte, accusant au passage le président américain d'avoir déchiré en 2015 l'accord sur le nucléaire passé avec Téhéran. L'Iran qui exclut toute discussion directe avec les États-Unis tant que les sanctions internationales seront maintenues à son encontre. 21h06 à Paris, aux États-Unis, sale temps pour la science américaine. Après la censure des sujets de recherche, eh bien les licenciements et les coupes de financement, la NASA perd également sa directrice de la science, Catherine Calvin, et son équipe ont un mois pour faire leur carton, alors que de lourdes menaces pèsent sur l'activité scientifique de l'agence spatiale américaine à l'occasion de l'examen de son prochain budget. Simon Rosé.
Exit le bureau de la scientifique en chef, Catherine Calvin, poussée vers la sortie. Exit également le bureau de la technologie et de la stratégie. Exit enfin l'équipe qui s'occupait des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. C'est le ménage dans l'organigramme de la NASA, dans la droite ligne des attaques menées contre la recherche fédérale par l'administration Trump. L'exemple de Catherine Calvin est à ce titre emblématique. Elle était, en plus de son poste de responsable scientifique, la principale conseillère climat de l'agence spatiale américaine. Elle devait coprésider un groupe de travail du GIEC pour l'écriture du prochain rapport, participation annulée au même titre que l'engagement américain dans ce travail. Ces coupes franches dans le personnel de la NASA vont de pair avec ce qui semble être une réorganisation des priorités de l'agence. Son budget va être examiné dans les prochaines semaines au Congrès. Des documents de travail circulent déjà. On y évoque une diminution de moitié de l'enveloppe dédiée à la science et zéro crédit alloué à l'étude et au suivi du climat. Si cela venait à se concrétiser, ce serait une catastrophe, tant le rôle de la NASA dans la surveillance de la Terre est primordial.
Et le retour des astronautes américains coincés dans l'ISS se précise. Une nouvelle mission habitée doit s'envoler cette nuit vers la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau de l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, ouvrant eh bien la voie au retour des deux astronautes américains qui étaient partis pour une mission de 8 jours et qui sont coincés dans l'espace depuis maintenant 9 mois. Si tout se déroule comme prévu et si la météo reste favorable, nous dit la NASA, les deux infortunés pourraient revenir sur Terre dès dimanche. Et sur la planète Terre, il y a encore du football ce soir après la belle victoire hier du PSG contre Liverpool. Le match à suivre en 8e de finale retour de la Ligue des Champions oppose en ce moment même Lille au Borussia Dortmund. On retrouve en direct du stade Pierre Mauroy de Lille, Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Véronique.
Et à ce qu'on me dit dans l'oreillette, ça se corse pour Lille.
Ah oui, alors là c'est un astéroïde là, qui est arrivé sur le stade Pierre Mauroy et tout le public, tout le stade climatisé, puisque en à peine un quart d'heure, un peu plus, Dortmund a fait mieux que refaire son retard. Dortmund est repassé devant Lille, d'abord sur un penalty, une faute sur Serhou Guirassy, faute de Thomas Meunier, penalty assez sévère, mais sifflé par l'arbitre de la rencontre et transformé par le capitaine de Dortmund, Emre Can. Et puis il y a quelques instants, à la 64e minute, alors qu'on joue la 66e en ce moment, à la 64e minute, c'est Maximilian Beyer qui a envoyé un coup de canon dans la lucarne de Lucas Chevalier. 2-1 donc pour le Borussia, alors qu'il reste un peu plus de 25 minutes avec le temps additionnel, peut-être une petite demi-heure, mais Lille va non seulement devoir égaliser pour espérer arracher une prolongation et puis ensuite marquer un autre but pour se qualifier et gagner le droit d'aller en quart de finale pour la première fois et d'affronter le FC Barcelone. Mais la tendance est plutôt favorable à Dortmund dans le jeu également, puisque les Allemands ont vraiment le contrôle du ballon. Ils se battent comme des chiffonniers au milieu du terrain et les Lillois sont à la peine. Mais il y aura des changements et des espoirs sans doute de retour dans cette rencontre pour les hommes de Bruno Genesio.
Et on croise les doigts bien sûr pour Lille, on a un peu chauvin ce soir. Merci Thomas de Saint-Léger du service des sports de RFI. C'est la fin de cette édition, il est près de 20h10 à Paris.